Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, cap sur la foire du livre de Bruxelles. Nous irons aussi au bord de la rivière Ebola et nous partons en voyage en camping-car. Yvan Jablonka, lauréat du prix Médicis 2016 avec Laetitia, revient avec un livre étonnant, le récit des voyages de son enfance en camping-car, un livre de souvenirs réjouissant et nostalgique, un livre qui régénère, un livre qui fait rêver. Bonjour Yvan Jablonka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un quarantenaire qui a vécu les années 80 dans une liberté absolue. Les vacances en camping-car, c'est ça la liberté, Yvan ?
Oui, enfin c'était une liberté qui se limitait à l'été. Oui. Parce que pendant l'année, c'était plutôt le régime du surmoi, si vous voyez ce que je veux dire.
À Paris, dans un petit appartement.
Avec beaucoup de travail à l'école aussi. Oui. Et voilà. Mais le camping-car, ça, c'était le moment où les règles étaient comme suspendues et d'où ces souvenirs fabuleux.
Bien, votre livre, c'est aussi une grande réflexion sur le bonheur. Nous décrypterons ensemble dans quelques minutes. Paul Constant, membre de l'Académie Goncourt, publie son roman « Des chauves-souris, des singes et des hommes » dans une version graphique réalisée magnifiquement par le dessinateur Barou. Elle raconte avec subtilité et émotion les origines du drame du virus Ebola. Paul Constant et Barou sont sur notre plateau. Et puis nous serons en duplex de Bruxelles avec le prix Rossel 2017. Le Goncourt belge, Laurent Demoulin, sera installé au cœur de la foire face au public avec un roman bouleversant.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont avec nous en multiplex. Bonjour Laura Sanchez.
Mais bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse, chère Laura, libraire à Genève dans la librairie du boulevard. Tout va bien chez vous ?
Oui, très bien.
Bien. Pour le Canada, c'est le retour de Marie-Noël Blé, libraire à Montréal dans la librairie Raffin. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez l'air en pleine forme, Marie-Noël.
Ah oui, en grande forme.
Restez comme ça. Vous le connaissez un peu maintenant, notre jeune libraire français. Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Puteaux.
Absolument.
Juste à côté de Paris, dans la librairie de l'Amandier.
Exactement, et nous aussi, tout va bien.
Oui, ça a l'air. Hein,
vous êtes. Ouais, très bien. Ouais.
Ouais, bien, c'est bien. C'est Annick Dor qui représente la Belgique, douce libraire belge. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
C'est la forme, c'est le printemps qui arrive ou quoi ? Vous êtes libraire
ça,
à...
Oui, je me demande.
À la Hulpe dans l'agglomération bruxelloise, dans la librairie de la Mazrine. Et vous interviendrez bien sûr tous les quatre dans cette émission. Bonjour Paul Constant.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Bienvenue dans la librairie francophone pour la première fois. Nous irons au Congo avec vous et Barou tout à l'heure pour l'adaptation de votre roman en livre graphique proche de la BD, mais ce n'est pas vraiment de la BD. On verra ça ensemble. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle que l'on vous confie. Vous avez carte blanche, je découvre en même temps que tout le monde. Que voulez-vous transmettre, Paul ?
Eh bien, une histoire qui va traverser plusieurs de mes livres. Enfant, à 8 ans, j'ai écrasé, sans vouloir le faire exprès, un tout petit animal, une sorte de rat palmiste. Et cette scène m'a profondément bouleversée. Mais pour l'écrire, il a fallu 4 livres pour dire que j'en étais coupable. Le premier livre, la bête existe, je la fais écraser par quelqu'un d'autre. Mmh. Dans un autre livre, la bête n'existe plus, c'est un petit chien que je fais tuer par quelqu'un. Et puis, il faut arriver aux chauves-souris, des singes et des hommes pour que j'accepte que la petite héroïne du roman écrase elle-même la chauve-souris.
Ouais.
Et donc, c'est une histoire, c'est le réel, c'est ce qui m'est arrivé, au milieu des traumatismes de plus traumatisants, puisqu'on avait demandé, mon père avait demandé que j'achève la bête que j'avais blessée.
Et vous l'avez fait ?
Non, je n'ai pas pu. Non. Un enfant ne s'est pas tué. Mmh. Et c'est un Africain qui est passé par là et qui a pris la bête par la queue et qui l'a tapée contre le mur. Mais cette histoire est tellement traumatisante qu'il a fallu, vous voyez, sur 30 ans de livres pour pouvoir...
À ce point-là, ouais.
Pour pouvoir la dire dans sa vérité et dans le dernier livre que je viens de publier.
Et ça se passait en Afrique ?
Ça se passait en Afrique.
Bien, merci pour cette histoire touchante. Paul Constant est dans la librairie francophone cette semaine. Yvan Jablanca est lui aussi parmi nous pour un récit singulier, surprenant et passionnant. En camping-car, raconte des fragments personnels dans les années 80. Je vais vous le dire tout de suite, Yvan, vous m'avez fait rêver avec ce livre. Alors nous verrons si c'est aussi le cas de nos libraires. C'est une grande respiration positive en tout cas. Que gardez-vous de ces vacances en camping-car aujourd'hui? Quelle influence ont-ils eu sur votre personnalité?
J'ai écrit ce livre parce que c'est un livre qui m'a fait du bien. Je sortais de plusieurs livres un peu tragiques, l'histoire de mes grands-parents, l'histoire de Laetitia tuée à l'âge de 18 ans, et je voulais raconter quelque chose de plus solaire, de plus lumineux, et ce livre, en ce sens, obéissait à ce que j'appellerais un principe de plaisir. C'est pas parce qu'on est historien qu'on est nécessairement porté vers des choses
mais
comme ça.
Mais les vacances en camping-car, Yvan, pour répondre à ma question?
Eh bien, c'est le moment où j'ai été, de mon enfance, le plus heureux et le plus libre. D'où cette dialectique entre bonheur et liberté.
Et ça vous a rendu libre?
Disons que ça m'a appris une forme de liberté, liberté de mouvement, liberté vis-à-vis de toute autorité, vis-à-vis de tout centre, vis-à-vis du national, parce que le camping-car, c'était effectivement une école de nomadisme, de décentrement, de dépaysement. On était comme ça dans le décalage permanent, dans le dépaysement permanent, et ça, je crois que pour un enfant, c'est source de liberté.
Alors, à partir du début des années 80 et de 6 à 16 ans, vous passez vos vacances d'été avec votre frère, vos parents et des amis de vos parents rencontrés à Palo Alto, aux États-Unis, là où votre père travaille à l'époque. C'est un scientifique de la Silicon Valley. On est en 1979 et il y a une façon de vivre effectivement qui s'élabore à ce moment-là. Alors, vous racontez votre enfance là-bas, au tout début, c'est l'espace qui est autour de vous, les balades en vélo dans le quartier résidentiel qui vous marquent, les copains qui tapent à la porte. On se croirait dans un film américain, il manque E.T. et on y est quoi.
Oui, c'est vrai que ça a été le cadre d'une partie de mon enfance, la Californie, et j'en ai gardé les influences, le goût de l'anglais, mais aussi la beauté des grands parcs nationaux californiens, et puis peut-être le flower power, l'époque hippie dont les couleurs acidulées se sont projetées sur la carrosserie de tant de camping-cars. Et puis, il faut aussi pas oublier que dans les années 80, c'est là que s'invente toute la culture informatique, enfin ce qui va devenir notre monde aujourd'hui. Moi, j'avais à l'époque 7 ans, et je ne pouvais pas savoir que c'est là que s'inventait ce qui deviendrait indispensable. La souris, l'ordinateur portable, des choses.
Des jeux électroniques auxquels vous jouez, hein,
oui,
Atari, Nintendo, etc.
Et ce que j'ai voulu raconter aussi dans ce livre, c'est la manière dont les années 80 et 90 ont été des décennies de bascule. Elles ont été en quelque sorte le creuset du nouveau millénaire.
Ensuite, vous rentrez en France, assez vite d'ailleurs. Les amis français vont être vos compagnons de voyage en camping-car. Tous les étés se passeront donc dans ce que vous appelez le bus. On a essayé de recréer l'ambiance sonore de vos voyages, Yvan Jablanca, à partir des éléments racontés dans votre livre. Expérience sonore, en quelque sorte. Écoutez bien. Vous reconnaissez, Yvan ?
Un petit peu, effectivement. Ça me ramène loin, loin d'ici.
Donc, il y a le bruit du combi Volkswagen.
Le moteur.
Le moteur.
Le Donkey Kong Nintendo version 1983, c'est ça ?
Que vous déclarez orange. En fait, il est marron, hein, parce que j'ai eu le même. Il est marron avec un liseré orange. Et puis, le jeu Space Invaders, hein, de Atari.
Merci, merci pour ce beau tableau sonore.
Et la mer. Alors, Yvan Jablanca, vous dites que c'est une façon de vivre à la fois babacool et bourgeois bohème. Vous racontez qu'en dehors des repas, vous faisiez, vous et votre frère, ce que vous vouliez, dans une forme de sobriété et de dénuement. Un short, des tongs et la mer. Et vous dites, la simplicité était devenue notre luxe.
Oui, c'est vrai que la Méditerranée est inséparable de ses vacances parce qu'on a traversé dans tous les sens le bassin méditerranéen, de la Grèce au Maroc et de la Turquie jusqu'en Espagne. Et je me souviens aussi de baignades du matin jusqu'au soir. La mer, c'était aussi notre hygiène parce qu'on se lavait que de cette manière. Voilà, on avait 8 ou 10 ans. Et puis, j'ai beaucoup joué dans l'eau. J'ai inventé des jeux. On était cerné par des requins. Et puis, On nageait, on allait comme ça, observer, on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui le snorkeling.
Et randonnée sous-marine en masque et tuba, hein, français.
Et la, et la Méditerranée, c'est aussi la civilisation grecque et latine, oui. Et c'est pour ça qu'il y avait quand même un petit côté culturel dans ces vacances.
Alors justement, on va passer au côté latin, on va quitter un petit peu la mer, avec la BO du roman. Alors la BO du roman, c'est ce qu'on vous demande, quelle est la musique qui illustrerait le mieux votre livre. Vous avez choisi Carmen. On va écouter donc un extrait de Carmen et je vais lire un extrait de votre ouvrage, Yvan. Le camping-car offrait un mode de vie aléatoire, un peu fou, sans horaire ni impératif, qui me permettait d'être un gamin de la mer, en short et en tongs, croquant un poivron ou une pêche entre deux baignades. Ce n'était pas tant la cessation des règles que le droit à l'inutilité. Je n'avais plus aucune fonction à assumer, on n'attendait rien de moi, j'étais un enfant qui ne servait à rien, un enfant tout court. Voilà, jusqu'au bout, Yvan Jablonka, une petite réaction à ce texte.
Je suis toujours ému d'écouter Carmen, ça a été un petit peu la bande-son de nos vacances en camping-car, et puis il y a aussi la roulotte des bohémiens qui, comme ça, reste fidèle aux routes de l'exil.
Ouais, vous dites, nous étions des SDF de l'été. Instables, nomades, nous avions des choses en commun avec les gens du voyage.
Le camping-car, c'était aussi l'enfance à l'état pur. C'était, je disais, j'étais un enfant qui ne servait plus à rien parce que je cessais d'être en quelque sorte l'antidépresseur de mon père. Mon père orphelin de la Shoah, qui, d'une certaine manière, s'est sauvé à travers nous, à travers les vacances qu'il nous organisait. Ça a été en quelque sorte une revanche prise sur l'histoire, sur le malheur, sur la tragédie. Et c'est ce qui explique que j'avais le sentiment de servir à quelque chose dans la commémoration funèbre et le travail scolaire pendant l'année. Mais tout ça s'arrêtait pendant ces vacances en camping-car. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'enfance à l'état pur.
Oui, le bonheur aussi. Alors, il y a une réflexion sur le bonheur, Yvan Jablonka. Tout part de cette injonction de votre père dans le camping-car, alors que vous sillonnez, je crois, les routes du Maroc. Mes souvenirs sont bons, il vous ordonne d'être heureux. Votre père, lui, ne peut être heureux que si les autres autour de lui le sont.
Oui, mon père et ma mère sont nés juifs pendant l'occupation en France, autant dire qu'ils n'avaient pas le droit de vivre. Et pour eux, faire des enfants, les élever, avoir un métier, se marier, rester ensemble, ça a été en quelque sorte un acte de résistance. Et pour nous, enfants, il y avait comme un devoir d'être heureux.
Et la liberté absolue, d'où cette liberté, le fait de s'affranchir comme ça de toute convention extérieure. Le naturisme, par exemple, vous pratiquez aussi encore.
Le naturisme, c'était plutôt en juillet, oui. Mais non, ça c'est quelque chose aussi
fini,
que j'ai abandonné. Mais
enfin,
oui, autre temps, autre mœurs.
Mais restez fidèle à ce que vous êtes.
On ira ensemble si vous voulez.
Si vous voulez, peu importe. Avec les libraires, tiens, il y en a trois qui ont lu votre livre, Yvan Jablonka, ils seront ravis. La Belgique, la France et le Canada, on commence par qui, Yvan?
Le Canada.
Le
J'étais
Canada.
À Montréal il n'y a pas longtemps et
très
c'est une
bien.
Ville que j'aime beaucoup.
Pareillement. Allons-y, Marie-Noëlle Blé.
Oui, bah oui, c'est vraiment une passionnante histoire de l'enfance que vous nous conviez. Le récit qui rappellera un petit peu la forme du journal arrive à convoquer nos propres sensations de liberté issues de ces parenthèses enchantées que sont souvent les vacances de notre enfance, puis du bonheur aussi dont il est beaucoup question. J'ai d'ailleurs bien aimé que ce père somme ses enfants d'être heureux, je trouvais ça très intéressant. Bref, c'est vraiment une très belle invitation à se souvenir.
Bien. La France, ça vous convient?
Oui, bien sûr, ça me convient tout à fait. De toute façon, je considère que c'est toujours le lecteur qui a raison. Et là, voilà, cette expression de parenthèse enchantée m'a fait plaisir. Le camping-car, c'était comme un espace-temps qui façonnait une certaine vision du monde.
Bien. Thomas Hausser, pour la France.
Alors, écoutez, moi, j'ai trouvé votre livre, Yvan, vraiment doux et étonnant. Il y a un vrai parfum de liberté. Il y a des souvenirs qui remontent. Moi, ça m'a fait penser... à du camping sauvage, il y a un côté exaltant, voilà. Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait que vous intéressiez à la relation de votre père au bonheur, et du coup aussi la vôtre, et puis que vous preniez le camping-car comme un sujet sociologique ou anthropologique. Ça, j'y avais jamais pensé. Vraiment, c'est très fort. Donc c'est enjoué, c'est teinté de philosophie et d'histoire sociale, c'est vraiment super.
Bien, Annick Dor pour la Belgique, êtes-vous d'accord avec vos collègues?
Bah complètement, ah, oui, bah, moi j'ai aussi beaucoup aimé ce livre, voilà, ça fera l'unanimité.
Oui, exact.
J'ai trouvé ça vraiment pertinent, passionnant, il y a vraiment beaucoup de choses abordées, une sorte d'esprit d'indépendance un peu anard, de la contre-culture hippie, enfin, un petit côté frugal un peu écolo aussi de ce type de voyage. Donc voilà, en tout cas une chose est sûre, c'est vrai qu'en refermant le livre, on ne demande qu'à embarquer en camping-car sur des petites routes de campagne à la recherche du meilleur spot pour, oui, pour passer la nuit, même si c'est vrai que malheureusement bah, le camping sauvage est interdit de jour, ce qui est bien dommage.
Ah oui, en camping-car aussi c'est interdit ? On peut pas se tanker dans un coin là, non ?
Hélas, je crois que on est là aussi dans un monde aujourd'hui où il y a des murs un peu partout et des formes de barbelés quoi.
Bon, en tout cas, il y a plein d'histoires comme ça, plein d'anecdotes. Hein. Yvan Jablonka, vous allez en Grèce par exemple et vous stationnez le camping-car dans un espace sauvage, un vivier de tortues. Alors vous découvrez comme ça les tortues. Vous avez pour animaux domestiques aussi des caméléons que vous ramenez de vacances en les cachant dans les rideaux du camping-car.
J'ai été touché par le récit de Paul Constant tout à l'heure à propos de ce petit animal qu'elle a tué, sans faire exprès. C'est vrai qu'il y a dans mon enfance ce que j'appellerais un bestiaire enchanté. Et c'est vrai que j'ai eu comme compagnon un caméléon, des serpents, des tortues, même des écrevisses. Et ça faisait aussi partie de ce côté presque mythique de mes vacances.
Mais le caméléon raconté ?
Alors le caméléon, on l'a acheté sur un marché du Maroc et j'ai appris plus tard que c'était interdit. J'en tire aucune fierté, mais en tout cas, voilà, c'est un animal à la peau un peu rugueuse qui change de couleur, mais il ne devient pas rouge ou écossais, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En gros, il change de couleur du jaune vif au vert bouteille. Et ça a été des animaux comme ça, des compagnons qui étaient à l'image de ces voyages, de ce caractère complètement presque hors du temps.
Mais vous le cachez dans le rideau, parce que le rideau est un petit peu bariolé, c'est ça ?
Parce qu'il était, le rideau était vert kaki, et vous, il est
et donc vous le mettez sur le rideau ?
Oui, et il est devenu complètement
invisible. Et personne l'a vu à la douane.
Vraiment, croyez-moi que c'est impossible de voir. Hein. Bon, alors le camping-car, c'était aussi l'objet en soi, il faisait partie de la famille, c'était un peu le cinquième membre de la famille et l'espace dans lequel celle-ci se retrouvait. Alors j'ai essayé un petit peu d'être fidèle à ma manière aux mythologies de Barthes et aux choses de Pérec.
Merci beaucoup Yvan Jablonka. Merci infiniment. En camping-car est paru aux éditions du Seuil. Lisez ce livre. Il vous fera patienter jusqu'à l'été. C'est un livre qui fait rêver et voyager dans une fraîcheur absolue. Je n'ai jamais dit ça à un auteur ici, mais vraiment Yvan, vous m'avez fait rêver.
Ça me fait plaisir.
Voilà, alors je l'attends en poche, comme ça je l'aurai tout le temps dans la poche en voyage. Vous me l'enverrez quand il sortira en poche.
Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup Yvan. Vous restez bien sûr avec nous. Tout à l'heure, nous serons en duplex de la Foire du Livre de Bruxelles avec Laurent Demoulin, prix Rossel 2017, qui raconte sa vie avec son enfant autiste. Ce sera là encore un grand moment d'émotion. On part au Congo dans 3 minutes au bord de la rivière Ebola avec Paul Constant et le dessinateur Barou. Avant cela, un hommage à Didier Lockwood, disparu le week-end dernier à l'âge de 62 ans. Nous avons retrouvé sa collaboration avec le chanteur angolais Lulendo, le violon de Lockwood en symbiose avec les rythmes africains dans la librairie francophone.
Sokili kambo ya kato bongi sao, ya kato lobela ko, ya kato fandela, kasi koti ankanda na mwana nangaite. Botala nikambo nzawiza, bakende kiboki la ongo ya obandeko. Botala nikambwe, bakende kiboki la o. Pimela yebo mengo Toko suka wapinga inalembie Lelo boko non lobi boko non Nga inalingi Pasyo esila Kimya ekota nalipota nabiso Oh, botala ikambonza wiza Bakende kiboki la ongo ya obandeko Botala ikambwe bakende kiboki lao Bino botala ikambwe
yogun yogun eh yogun eh yogun yogun file yogun yogun eh yogun eh yogun yogun file yogun yogun eh yogun Yogun, yogun, file. Botala, ikambon, botala, hey, hey, botala, ikambon, botala, hey, hey, botala.
Lulendo et Didier Lockwood avec Bande d'écho dans La Librairie Francophone.
La Librairie Francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Paul Constant et Barou sont dans la librairie pour des chauves-souris, des singes et des hommes. Roman de Paul Constant adapté en livre graphique. Ce n'est pas tout à fait une bande dessinée, pas tout à fait un roman graphique, un soupçon peut-être de livre pour la jeunesse, Barou?
Non, pas du tout, non.
Non. Enfin, moi, j'ai trouvé.
C'est ce qu'on appelle un roman graphique.
Oui. Oui. Alors, vous êtes un dessinateur, Barou, qui a mené une brillante carrière au Canada et aux États-Unis, illustrateur de presse pour Forbes, le New York Times ou encore le Washington Post. Vous avez été aussi dessinateur pour la jeunesse et je trouve que ça se ressent beaucoup, moi, dans ce livre, parce que le trait est très naïf. Vous avez choisi un dessin épuré et naïf.
Alors effectivement, je vais plus à l'émotion et dans ce cas-là, dans le cas de ce livre-là, c'est vraiment la couleur qui rappelle l'Afrique et qui est explosive, peut-être au détriment du trait. Il y a des dieux du dessin, je suis face à Johan Sfar, là, notamment sur ma table.
Et, oui, qui dessine sur les tables
voilà, qui
quand
dessine
il est
très,
là.
Très bien. Mmh. Et moi, autres. Je vais chercher un dessin peut-être moins juste, mais plus chargé en émotion. Ouais. Et effectivement, il y a le travail sur la couleur qui est... notre lien commun avec Paul. J'ai vécu moi-même en Afrique, plutôt en Afrique du Nord, mais il y a cette couleur explosive dans ce livre-là. Notamment.
Alors Paul Constant, dans cette histoire, vous racontez les origines de l'épidémie Ebola. On va faire un petit rappel sonore avec une archive de France Télévisions. Écoutez.
Le 6 décembre 2013, un enfant qui pourrait ressembler à celui-ci meurt d'une fièvre mystérieuse dans un petit village de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Parmi les symptômes, d'importantes diarrhées, des vomissements et une hémorragie interne. Sa mort passe inaperçue aux yeux du reste du monde et personne ne connaît son nom. Mais pour les épidémiologistes, il porte le nom de patient zéro. C'est le premier cas de ce qui apparaît aujourd'hui comme la pire épidémie de fièvre Ebola que le monde ait jamais connue. Dans les jours qui suivent, la mère, la grand-mère et les sœurs de l'enfant meurent toutes en présentant les mêmes symptômes. Puis c'est au tour des deux infirmières qui ont soigné le garçon et sa famille. L'épidémie vient de commencer.
Une épidémie, Paul Constant, génère la terreur. On le voit dans votre récit.
Oui. Le patient zéro s'appelait Émile. C'est pour ça que le premier mort de mon roman porte le même prénom. Ça a la forme d'une tragédie, ça a la forme d'une malédiction, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, comment ça se propage et où ça va. Et on est véritablement dans un univers de la terreur et du non-sens. Et dans un univers de la terreur et du non-sens, on cherche des coupables, on cherche des raisons. Et le premier coupable que l'on trouve, qu'on se met sous la main,
ouais,
c'est la propre sœur d'Émile, c'est la petite Olympe.
Alors la petite Olympe, une petite fille qui recueille une petite chauve-souris, qui la ramène au village, qui va la nourrir et qui va sans doute contribuer à cette épidémie. Ça part aussi de là. Et puis il y a les jeunes garçons du village, partis à la chasse, qui vont eux trouver un gorille. Mais il s'avère que ce gorille a été trouvé déjà mort. Quelle est la différence d'ailleurs ?
Alors, nous savons scientifiquement que la chauve-souris est le réceptacle du virus et que le gorille, lui, meurt de la fièvre Ebola comme un humain et que certainement le gorille a mangé des chauves-souris, a contaminé. C'est donc ce titre qui ressemble à un titre de fable, c'est exactement l'histoire d'une contamination des chauves-souris, des singes et les hommes qui vont manger le singe, et puis à partir des hommes, et ben toute la mondialisation, c'est-à-dire la fréquentation des hommes entre eux, blancs, noirs, les hommes qui franchissent les frontières, les hommes qui arrivent dans la ville, qui prennent des taxis, et puis notre plus grand foyer ou lien de contamination, qui est l'avion. Il suffit qu'un malade s'embarque un jour pour Roissy.
C'est ce qui se passe dans votre livre, d'ailleurs.
Et c'est une épidémie mondiale.
Ouais. Alors dans votre livre, Paul Constant, vous évoquez ces humanitaires qui s'engagent, qui plaquent tout dans leur vie occidentale, en fait, et qui cherchent une nouvelle utilité, de nouvelles sensations aussi. On a l'impression quand même qu'avec votre personnage d'Agrippine, vous laissez entendre qu'il y a trop souvent une ingérence décalée, maladroite ou même incompétente.
Devant une épidémie, tout le monde est incompétent. Moi, j'ai vu arriver la première grande pandémie de choléra à Abidjan, on ne savait pas que faire. On ne sait encore rien faire contre la rage, rien. Vous avez un enragé devant vous, vous pouvez constater son décès. Donc, à la fois, cette humanitaire est présentée avec ce qu'elle peut apporter, c'est-à-dire rien devant le nouveau, et ce qu'elle apporte, c'est des vaccins pour les maladies anciennes, d'une part. D'autre part, est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un d'essayer de sauver sa vie de toutes les façons possibles? On se sauve avec ce qu'on a sous la main et on se sauve avec les autres. Et elle, il se trouve qu'elle va se sauver avec l'enfant qu'elle n'a pas eu.
Ouais.
Cette femme qui a cru toute sa vie que c'était pas important d'avoir un enfant, brusquement en voyant cet enfant-là, eh bien, elle sait que c'est plus important que tout. Et ce qui est le plus déchirant, c'est que l'enfant qu'elle va adopter, c'est un enfant qu'elle va voir mourir.
Ouais. Et elle va mourir à son tour dans
elle
ce village.
Mourir de la fièvre contaminée par l'enfant qu'elle a voulu.
Dans un village en Afrique de l'Ouest, il y a des codes, il y a des traditions, des superstitions. Barou, vous dessinez très bien d'ailleurs cette vie de village qu'on entend derrière. On a retrouvé un son d'archive avec un village au Congo. Et on est vraiment dans cette ambiance-là. Et c'est vrai que les traditions, les malédictions aussi, on en parlait, c'est très important. C'est ce qui a déterminé beaucoup de choses, d'ailleurs, au moment de l'épidémie.
Oui, moi, je me suis surtout calé sur les mots de Paul. Je me suis beaucoup documenté. Et puis, j'avais une ligne conductrice d'un point de vue graphique. C'était ces fameuses enseignes d'art brut, ces enseignes de coiffeurs, notamment de mécaniciens. Et ça m'a inspiré ma ligne conductrice pour des chauves-souris, des singes et des hommes.
Et ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai écrit le livre, je l'ai écrit avec ces affiches en tête. Moi, je ne suis pas un écrivain intellectuel, entre guillemets. Moi,
Un petit peu.
Je suis un écrivain peintre.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que je pose
des
trucs,
scènes.
Je les pose et de la couleur.
Oui.
Et mes modèles, c'était ces affiches. Or, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Barou ait retrouvé l'origine de ce qui n'était que des mots et redonné la couleur primitive des affiches qui m'avaient inspiré.
D'où ces aplats de couleurs que l'on trouve sur les dessins.
Très important.
Très important.
Je n'avais pas envie de faire quelque chose d'extrêmement sombre. Le texte est déjà tellement dur et tellement violent que j'ai essayé de garder cette violence au niveau du trait, mais en contrebalançant avec énormément de couleurs.
Ouais. Et puis il y a cette pudeur aussi dans le dessin. On ne distingue pas tout parfois quand il y a des drames. Et vous avez cette subtilité-là. Alors, on va dire pour certains que ça fait dessin pour enfants, dessin naïf, mais il y a une vraie recherche graphique autour du texte, et c'est ce qu'on ressent tout au long de la lecture.
Ce qu'il a merveilleusement montré aussi, c'est la pudeur de l'Afrique vis-à-vis des drames aussi.
Exact. Hein, on va laisser la place à nos libraires sur cette ambiance de village au Congo, avec Laura Sanchez qui est en Suisse. Laura, je crois que vous avez été séduite par cette adaptation.
Oui, moi, pour moi, ce livre, il dégage une puissance qui est très troublante, en fait. D'abord, il y a ce dessin. Alors, comme vous l'avez déjà évoqué, il y a ce trait brut, presque naïf, qui fait planer une sorte de tranquillité, alors que le récit est violent. Et puis, ces couleurs chatoyantes sont absolument fantastiques, mais les faits derrière sont glaçants. Mais moi, il y a une petite chose qui m'a dérangée quand même, c'est justement lié à cette adaptation du roman en récit graphique. Je trouve que le rythme du récit graphique, du coup, il est presque trop rapide et on dirait qu'il y a trop d'ellipses.
Ah oui, mais ça, on est obligé de raccourcir. Je me suis posé la question, Paul Constant. Elle a fallu faire des choix.
Alors, c'est pas moi qui les ai fait.
Réduire le texte.
Non, c'est pas moi qui les ai fait. à partir, c'est le livre de Barou. Et si j'avais connu le livre de Barou avant d'écrire le mien, si vous voulez, j'aurais peut-être simplifié le mien. J'aurais peut-être simplifié le mien, parce que c'est toujours mieux quand on va vers le plus simple.
Ouais. Thomas, pour la France, êtes-vous d'accord avec votre collègue ?
Alors écoutez, moi c'est une BD qui au début m'a un petit peu déstabilisé dans les premières pages. Il a fallu une dizaine de pages pour que je comprenne un petit peu l'enjeu du côté sans bulle et avec des cases déstructurées. Au final, ça a vraiment fonctionné. Je me suis laissé emporter par ce conte très sensible, hein, vous l'avez dit. Et puis ça m'a donné envie d'aller voir un peu plus loin, c'est vrai. Vous parlez du choix du texte et de la coupe. Moi j'ai envie de... Je vous connaissais pas, Paul. J'ai envie de, voilà, de découvrir votre texte là et de le lire. J'ai très envie, ouais.
De lire le roman, oui. Voilà. Ça sert à ça aussi, hein. Bandes dessinées adaptées, ça sert aussi parfois à guider vers le roman. Il y a un autre jeune humanitaire qui s'appelle Virgile, qui lui défend l'idée que les épidémies proviennent d'un bouleversement de l'écosystème. C'est l'homme qui crée lui-même les conditions favorables aux épidémies.
Bon, et de toute façon, il faut un coupable. Alors, d'un côté, c'est la petite fille, et d'un autre côté, c'est notre façon de vivre. Peut-être que c'est évident, peut-être que ça ne l'est pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Les épidémies sont là, elles ont toujours été là, elles ne demandent qu'à renaître, elles ne demandent qu'à revenir et elles ne demandent qu'à exister à nouveau. On est au début, on est absolument au début d'une vie épidémique. Regardez le nombre de poulets qu'on sacrifie ou de canards qu'on sacrifie, tout ça, le nombre de cochons qu'on sacrifie. On est sous cette espèce de grande menace, comme sous un grand vol des tourneaux noirs qui, à un moment donné, va se poser.
Oui, ça peut basculer à tout moment, oui, à ça tout moment. Dire. Oui. Il y a cette déconnexion aussi en Afrique vis-à-vis de certaines réalités sanitaires. Le docteur Désir, qui est l'un de vos personnages dans l'histoire, qui pense plus à se faire construire un cercueil en forme d'avion qu'à soigner vraiment la population, c'est un grand délire, et Barou s'est régalé d'ailleurs dans les dessins.
C'est mon personnage préféré.
Le docteur Désir, oui.
C'est une espèce de masse.
Un gourou comme ça, inconsistant. Oui.
Oui. C'est marrant, j'avais Gérard Depardieu en tête quand je le dessinais, cet homme-là. Mais parce qu'il ça a une manière de vous, se déplacer, il a une manière de se déplacer assez... il est monolithique, quoi. Ouais. Donc je l'ai dessiné un peu comme ça.
C'est
un personnage qui est une sorte de truand qui vend à l'Afrique tout ce que l'Occident ne veut plus. Et donc, il fourgue la marchandise. Et puis là, il va découvrir une peau de gorille et il va transporter la peau de gorille. Il va en faire une tente de désenvoûtement. Et là, il va contaminer le maximum, le maximum voilà. des gens.
C'est le désastre et la catastrophe assurée. Voilà. Merci beaucoup, Paul Constant et Barou. Des chauves-souris, des singes et des hommes. Votre livre est paru aux éditions Gallimard, collection bande dessinée. Merci Paul Constant d'être venu à nous. Vous habitez dans le sud de la France et vous avez fait le voyage spécialement pour nous. Merci beaucoup, c'est un grand honneur de vous avoir sur le plateau.
Et c'est un grand plaisir.
Merci à vous. Vous restez avec nous parce qu'on va faire une petite surprise ensemble à l'autre invité qui arrive. Bon, chut. À suivre la chronique des libraires et le prix Russell donc avec Laurent Demoulin en duplex de la Foire du Livre de Bruxelles. Préparez-vous à une grande émotion. Son livre Robinson en hommage à son fils de 10 ans autiste va vous toucher au cœur de plein fouet. Avant cela, voici le tout nouveau titre de Françoise Hardy, c'est vraiment tout nouveau, ça s'appelle Le Large et c'est déjà dans la librairie francophone.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large, aucun requin. Aucune langue de bois, aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin.
C'est le tout nouveau titre de Françoise Hardy, Le Large. Oui, Paul
beau.
Constant.
C'est bien
ça
beau.
Vous plaît? Bah
ah
voilà,
oui,
bah cadeau pour vous. Sur ici, Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. La chronique des libraires, tous ensemble dans cette plus grande librairie du monde pour les coups de cœur et les coups de gueule. Laura Sanchez est en Suisse et Laura, vous avez un coup de gueule.
Mais oui, un coup de gueule de saison, Emmanuel, parce que juste après le fléau des histoires de Noël pour les enfants avec des paillettes et des lutins, qu'y a-t-il ? Les histoires de Pâques, bien sûr. Car nous sommes envahis par des histoires de poules et de lapins qui partent à la chasse aux œufs. Autant de livres produits pour l'occasion et sans aucune inspiration.
Effectivement, ça fait beaucoup. Marie-Noëlle Blé, un coup de gueule également au Canada.
Oui, bah ça va presque dans le même sens que ma collègue. Oui. J'ai envie de faire un coup de gueule pour les livres thématiques qui sont inutilement mis en marché au Québec en différé. Donc, je vous donne un exemple. Ouais. Une nouveauté française à forte thématique de Noël qui arrive au moment de la Saint-Valentin au Québec. Il me semble qu'on pourrait vraiment éviter ça parce qu'un livre de Noël qui sort en février, bah c'est vraiment un livre de Noël qui va rester sur les tablettes comme un point mort et qui sera retourné vers la fin du printemps. Donc, ça ne sert strictement à rien.
Bah, il faut attendre le mois d'octobre ou novembre. Vous le gardez dans un coin et vous le ressortez lors de la parade de Noël à Montréal.
Ou pas.
Annick Dor, un petit coup de cœur qui pourrait être un coup de gueule pour moi, si je peux m'immiscer dans votre chronique, je vous explique après vous.
D'accord.
Allez-y, commencez.
Oui, alors, voilà, donc c'est pour un roman qui a le mérite d'aborder une thématique qui est assez rare en littérature, qui est le monde de la danse. Et qui plus est, via ce qui est sans doute l'un des plus grands drames qui puisse arriver à une danseuse, c'est de voir se développer à la puberté une grosse poitrine. Donc c'est à ce thème « Ma mère » que s'attaque la Belge Véronique Sels dans son roman « La ballerine au gros sein ». Alors le sujet est étonnant, la façon de l'aborder également, puisqu'une partie du livre donne la parole aux deux seins, dextre et sinistre. Voilà, vous l'avez compris, un roman plutôt original, mais j'aimerais avoir votre avis, Emmanuel.
Non, alors moi, c'est juste la forme. Alors, j'ai lu quelques passages, effectivement, ça ne m'intéresse pas trop, mais ça encore. Mais la couverture, alors je montre à tout le monde, hein, c'est une couverture rose avec deux gros seins dessinés. Je trouve ça racoleur, vulgaire, enfin, complètement raté. C'est chez Artaud, je suis désolé hein, pour les éditions Artaud, mais franchement, là, cette couverture, Thomas, non ?
Ouais, pas trop.
Ouais. Voilà.
Enfin, après, est-ce qu'on doit vraiment juger un livre sur sa couverture?
Alors, non, c'est d'accord, vrai que d'accord. Mais ça donne pas envie comme ça. C'est dommage. La jaquette, voilà, il suffit de l'enlever. Bon, Thomas, un coup de cœur, vous, pour un grand auteur de polar.
Exactement. Alors, c'est pour Mazad, de Jean-Bernard Pouilly, aux éditions Série Noire. En gros, l'histoire, on suit Camille. C'est un quadragénaire qui habite le nord de la France, une petite ferme. Camille, il va s'engager dans une ZAD, donc une zone à défendre, avec des amis. Il y a un gros projet immobilier qui devrait voir le jour pas loin de chez lui. Et voilà, il s'y oppose. Alors, il n'a pas trop de chance, notre Camille, parce qu'il vient de perdre son boulot, il a perdu sa copine. Il y a un de ses entrepôts qui vient de flamber sur sa ferme. Et puis, il y a même des gros bras qui cherchent à le tabasser. Donc, autant vous dire qu'il va démarrer son enquête et qu'on va le suivre. Moi, ça, j'ai adoré. Il y a une langue populaire, c'est cynique, c'est aussi très drôle. Même si des fois, il y a des jeux de mots un peu pourris, mais bon, moi, j'aime beaucoup. Enfin, vous allez voir que c'est un polar qui est vraiment exaltant, que vous allez adorer.
Bien, et c'est dans l'actualité en plus. Hein,
et en plus, dans l'actualité.
Ce qui se passe en France, notamment. Absolument. L'actualité française. Jean-Bernard Pouilly, grand auteur de polar, donc aux éditions Gallimard, Série Noire. Merci Thomas.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Eh oui, vous écoutez la librairie francophone. Nous partons tout de suite à Bruxelles, en duplex et en public sur le stand de la RTBF. Bonjour Laurent Demoulin.
Bonjour Emmanuel, bonjour Paris, bonjour la francophonie.
Bienvenue à vous Robinson, votre roman-récit autobiographique a reçu le prix Russell. Vous êtes l'invité vedette de cette foire du livre. Comment ça se passe pour vous? Quelle est l'ambiance à Bruxelles?
Une très très belle ambiance, il y a beaucoup de livres déjà c'est déjà bien puisqu'il y a des livres et puis beaucoup de gens qui circulent et qui regardent les livres et qui s'adressent aux écrivains. Très bonne ambiance.
Bien, Robinson, donc votre roman raconte votre vie avec votre fils autiste de 10 ans. C'est un livre qu'on lit au bord des larmes car vous transmettez une intensité émotionnelle rare. Sous la forme d'une déclaration d'amour, vous dites à quel point vous l'aimez votre fils et à quel point aussi la vie est dure avec lui. Il ne vous laisse aucun répit.
J'aime bien que vous présentiez le livre comme ça, effectivement. C'est une histoire d'amour immobile et en même temps très mouvementée. Effectivement, l'enfant n'a aucun interdit, donc il peut se permettre tout un tas de choses que nous-mêmes n'osons pas faire. Donc oui, c'est une vie qui n'est pas de tout repos, effectivement.
Et vous racontez d'ailleurs devoir être...
Mais c'est une histoire d'amour.
Toujours en forme pour surveiller Robinson. Vous dites aussi ne pas avoir le droit de mourir jeune, car pour s'endormir, Robinson a besoin de vous tenir la main, comme ça, chaque soir.
Oui, effectivement. Bon, c'est pas tellement que, avant de connaître cette expérience, j'avais envie de mourir, mais là... Et je crois que tous les parents qui ont un enfant différent, disons, il y a une sorte d'interdit de mourir. Qu'est-ce qui m'arrivait si j'avais une crise cardiaque pendant la nuit? C'est le cauchemar absolu, c'est sûr. On n'a plus le droit de mourir, on ne peut plus mourir en paix. Cette notion de mourir en paix qui me semblait ridicule avant, là maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Je vous envie, tous vos auditeurs qui peuvent mourir en paix, je les envie.
C'est vrai qu'il y a des passages comme ça qui font sourire, hein, Laurent Demoulin, mais là encore... Toujours les larmes aux yeux. Quand vous confrontez Robinson au monde extérieur, par exemple, vous faites corps avec lui, et ce, malgré les regards, malgré la compassion ou la crainte des autres. Dans un supermarché, dans un parc, Robinson a toujours des comportements imprévus.
Oui, tout à fait. Et effectivement, le narrateur, qui est le père de Robinson, plutôt que d'essayer de tirer Robinson vers la normalité, il est obligé de le freiner quand même, sinon il sera en danger pour lui-même, mais il a plutôt tendance à s'adapter à son fils plutôt que d'obliger son fils à s'adapter au monde tel qu'il va. Donc c'est un père qui essaye, dans la mesure du possible, de respecter l'autisme de son enfant parce qu'il fait partie de lui, si vous voulez. Il l'aime comme il est. Je crois qu'aimer quelqu'un, c'est l'aimer comme il est.
D'ailleurs, ce père, parfois, il dit être son double. Son corps, son esprit s'adapte à son comportement et vous dites vous-même, Laurent, être dans sa bulle autistique.
Oui, je n'aime pas l'expression bulle autistique. C'est pour ça que le personnage s'appelle Robinson. Ça renvoie plutôt à Lille.
Mais c'est une expression que vous utilisez.
Hein. Ah oui, peut-être que je l'entends une fois, oui. Mais je l'ai appelé Robinson pour la métaphore de l'île que je préfère à celle de la bulle, parce que dans l'île, il y a quand même moyen de rencontrer un autre. Il y a un vendredi, quoi. Le père, c'est vendredi, finalement. Et c'est vendredi qui s'adapte à Robinson, comme on sait, et pas l'inverse.
Bon, j'ai une surprise pour vous, Laurent Demoulin. Dans nos studios à Paris, il y a formidable. Paul Constant, membre de l'Académie Goncourt. Elle a accepté de lire un extrait de votre livre, qui, je le rappelle, vient d'obtenir le prix Russell, le Goncourt belge, donc. Et elle va lire sur la musique favorite de Robinson, qu'il aime écouter sur une boîte à musique. Vous voyez laquelle?
Oh là, quel cadeau, les Beatles.
Exactement, on écoute les Beatles.
Joue des Beatles, oui,
avec
oui. Ça c'est un cadeau, merci.
La
merci,
lecture
Emmanuel.
De Paul Constant, écoutez.
Hey Jude, don't let me down. You have found her.
Robinson s'adapte-t-il à moi? Ou est-ce moi qui m'adapte à lui? Qui rejoint son île au milieu de la mer? Quand nous descendons la rue en courant, si je ne ris pas comme lui, c'est que j'ai peur du regard d'autrui. Quand nous jouons à la bataille ou au bateau qui coule dans la houle des draps de lit, j'expulse de mon corps moi aussi des sons inarticulés, rugissements de tigres, tumulte de la tempête sur un toit en tôle, cri vainqueur d'un gorille à dos argenté. Ou alors... Je m'empare d'un des tuyaux d'aspirateur de sa collection et,
tout en faisant tourner d'un mouvement circulaire du bras l'une de ses extrémités. Je répète dans l'autre son prénom en prenant une voix d'outre-tombe déformée par le conduit mouvant. Robinson, Robinson.
Laurent Demoulin est à la Foire du Livre de Bruxelles. Nous, on est en studio en France. Liaison à distance avec cette lecture de Paul Constant. Laurent ?
Mille merci, vous auriez dû voir, les gens devant moi ont commencé à applaudir les Beatles, c'était fabuleux, il y avait une ambiance à la Foire du Livre de Bruxelles avec cette lecture, merci, je ne blague même pas, c'est vrai.
Bon, on est très émus en tout cas, on est très émus pour vous, on est très émus aussi à la lecture de ce livre parce qu'il y a des passages très émouvants, lorsque vous parlez du sommeil de Robinson par exemple, un enfant qui dort reste un enfant qui dort, sans distinction autistique ou non autiste, et vous questionner en fait sur les rêves qu'il peut faire. Vous vous demandez même si vous apparaissez dans ses rêves.
Oui, c'est tout ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant qui ne parle pas, puisque non seulement il est autiste, je dis oui autiste dans le livre, mais surtout ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'est qu'il ne parlait pas et comment se construisent les rêves sans les mots. Donc c'est très mystérieux. Donc oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans ses rêves? Et est-ce que j'y apparais? Qui y apparaît? Il y a une telle proximité entre ce père et cet enfant. Est-ce qu'ils sont deux ou est-ce qu'ils sont un seul? On ne sait pas. C'est peut-être la même personne dans l'esprit de l'enfant.
Vous écrivez aussi, Robinson n'a aucun problème. Parfois il s'ennuie, parfois il râle, parfois il a mal au ventre. Mais la plupart du temps, il est gai, harmonieux, bien dans son corps, content de ses occupations. Il n'a pas de problème, mais il en est un, dans le monde tel qu'il est. Il y a trois libraires qui ont lu votre roman, Laurent Demoulin, la Belgique, le Canada et la Suisse. On va commencer par le Canada, avec vous, Marie-Noëlle Blais.
Oui, c'est tout à fait exceptionnel dans ce livre, comme la paternité se révèle dans toute sa nécessité, dans son urgence, dans son héroïsme, mais aussi beaucoup dans son humilité. J'ai beaucoup aimé que le narrateur soit faillible, mais à la fois étonné de sa propre énergie à rester debout devant les difficultés de son quotidien. J'ai aimé qu'il dise à plusieurs reprises que son fils est beau. Et puis on se rend compte assez vite que ce père, en fait, il regarde et puis il nomme le monde pour deux, avec une sensibilité qu'on a toujours prêté davantage aux mères.
Bien, merci beaucoup Marie-Noëlle. Oui, Laurent.
Oui, merci beaucoup Marie-Noëlle. Oui, et d'ailleurs, à tel point qu'il se demande lui-même s'il ne devient pas une seconde mère plutôt qu'un père. C'est une des questions qui se posent dans ce livre. Donc oui, merci de votre lecture. Je suis d'accord avec ça.
Annick Dor, pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, donc complètement. Et c'est vrai que ce qui, moi, m'a frappé en lisant ce livre, c'est aussi vraiment, oui, voilà, cette détresse de père qui est très discrète, mais qui est vraiment présente à chaque page. Et à côté de cette angoisse, vous montrez, malgré les difficultés, votre amour indéfectible pour Robinson. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé votre roman, malgré, c'est vrai, les très nombreuses évocations scatologiques qui, c'est au départ, m'ont un petit peu gênée, mais que j'ai trouvé finalement justifiée, tant elles rendent le texte réel, concret, brutal. Voilà, c'est la réalité, quoi, c'est comme ça.
Oui, il y a des références parce qu'il y a plein d'histoires.
Il fallait en parler.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très compliqué.
J'étais obligé de parler de. C'est difficile d'expliquer ça en deux mots à la radio, mais j'étais obligé de parler de cet aspect-là aussi. Au début, ça me faisait peur, et puis avec le recul, je trouve que ce sont les meilleures pages du livre, moi personnellement, qui traitent de ce sujet-là.
Donc, ouais, c'est un petit peu dur parfois.
Thème vraiment très fort, quoi. La merde, j'appelle ça comme ça. Je suis désolé pour vos auditeurs, mais le lien entre l'amour et la merde, c'est un lien très très fort et que j'ai découvert en écrivant ce livre.
Laura Sanchez est en Suisse. Vous vous interrogez, vous, Laura?
Oui, alors moi, je rejoins mes collègues. Je trouve que ce texte est très beau car il est digne, frontal et jamais misérabiliste. Par exemple, il y a ce passage de la promenade dans la rue qui est juste sublime. Du coup, moi, je termine ce livre effectivement avec beaucoup d'émotions, mais avec aussi des questions abyssales. Vous avez déjà partiellement répondu. Mais que peut-il advenir de cet enfant lorsqu'il sera grand? Mais aussi, que peut-il advenir de ce père?
Oui, ça, je
Laurent
Demoulin. Je ne sais pas, c'est pour ça que le livre, je ne peux pas répondre à cette question. C'est pour ça que le livre se termine de cette façon-là, par une sorte de fable que je ne vais pas raconter, mais parce qu'il y a quelque chose, c'est un amour en même temps très fort et en même temps une sorte d'amour impossible. Ils aimeraient bien que le temps s'arrête quelque part, tous les deux, le père et le fils. Donc, on ne sait pas ce qui va advenir. C'est un mystère.
On va clarifier, excusez-moi, Laurent. Est-ce un peu votre histoire, en fait, l'histoire de Robinson ?
Oui, c'est un peu mon histoire, je dois bien avouer, oui. Alors, mais c'est écrit comme un roman, ce n'est pas un témoignage, ni une autobiographie, je dirais que c'est un roman autobiographique.
Mais comment vous envisagez l'avenir pour répondre à la question de Laura ? Parce qu'on se pose la question, puisque l'enfant a 10 ans, alors je ne sais pas si votre fils a 10 ans aussi, mais effectivement c'est très compliqué d'avoir la charge complète comme ça d'un enfant qui va grandir.
Oui, mais ça c'est vraiment très, très compliqué de vous répondre. On vit au jour le jour quand on vit des expériences de ce type-là. Et l'avenir, c'est juste un point d'interrogation pour tous les parents du monde, mais là encore plus, une sorte de point d'interrogation absolu. Je crois qu'on est obligé de vivre au jour le jour, d'être dans une sorte d'immobilité temporelle. C'est un livre sur l'immobilité temporelle. Ce qui bouge dans ce livre, c'est l'espace, si vous voulez. Donc, l'autisme, c'est un monde où l'espace joue plus de rôle parce que le temps est comme aboli.
Paul Constant veut vous poser une question.
Je voulais vous demander littérairement, comment est-ce qu'on achève un livre comme ça alors que l'action est présente ? Vous avez choisi de terminer en fable. En quoi est-ce que ça vous sert de terminer en fable ? C'est éluder, c'est inventer, c'est vous mettre de côté.
La fable était une manière de, un peu comme les paraboles, si vous voulez, dans un grand texte célèbre, la fable était une manière de dire la pensée par le récit. Et la pensée était que ce choix qu'il a fait, ce père de la fusion finalement, était quand même une impasse, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça que veut dire la fin, mais j'aime bien que le lecteur choisissez le
interprète,
sens
bien sûr.
De cette frappe finale.
Merci beaucoup Laurent Demoulin, merci infiniment. Robinson est paru aux éditions Gallimard, c'est le prix Russell 2017, un livre qui vous bouleversera dans une rare intensité. Merci Laurent, bonne foire du livre à Bruxelles alors à vous.
Merci.
Nous serons d'ailleurs ce week-end sur le stand de la RTBF pour une carte blanche à Benoît Peters avec Harold Skuyten et Hubert Reeves. Rencontre à ne pas manquer que nous enregistrerons et que nous diffuserons bien sûr prochainement dans cette émission. Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone, voici le chanteur franco-canadien Mathieu Deslongchamps avec un extrait de Héros Anonymes.
Passer sa vie à recoller des morceaux, je l'ai compris devant ton berceau. Je pédale dans l'ombre pour que tu vois la lumière. Je te dédie chacune de mes prières. Y aura pas mon nom dans un bled paumé, sur une dalle abandonnée. Pas de statue dans la capitale, pas pour une tragédie banale. Je pédale dans l'ombre pour que tu vois la lumière. Je te dédie chacune de mes prières. Je passerai comme l'oiseau dans ton paysage. Le temps d'un sourire pour que tu gardes mon visage. Venir et partir comme un voleur. Le temps d'entendre battre ton cœur. Je m'envolerai aux premières. Pour pas que tu pleures, pour pas que tu pleures. Tu verras mon petit bonhomme, suffit pas de marcher pour être un homme. Non, je ne serai pas de ces guerriers vainqueurs, acclamés d'avoir transpercé des cœurs. Je pédale dans l'ombre. Jackie.
Mathieu Deslongchamps, Héros anonymes, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la réalisation Henri-Marc Mutel avec Nicolas Delmas, Thierry Dupin, la prog musicale. Merci Yvan Jablonka, à très bientôt. Paul
Merci.
Constant, Barou, merci infiniment. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Vera Lou de Ride en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouet en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, place à la poésie. Nous ouvrirons le printemps des poètes. Nous serons aussi avec Vincent Ravalec et la chanteuse haïtienne Mélissa Lavaux qui jouera un titre dans nos studios. Bonne semaine, bon week-end à vous. Salut.